Le débat du jour.
Nathanaël Vitran.
C'est l'Académie française qu'Emmanuel Macron a choisi pour présenter aujourd'hui son plan pour la francophonie devant les gardiens du temple de la langue française et 300 jeunes venant, nous dit le communiqué, de tous les continents, symbole pour l'Élysée d'une langue qui pourrait d'ici 2050 être parlée par plus de 700 millions de personnes. L'occasion pour le président de donner sa définition de la francophonie.
Ce qu'on appelle francophonie aujourd'hui, c'est la langue française elle-même qui est devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples où elle a fait souche dans sa variété étourdissante. Et la France doit aujourd'hui s'enorgueillir d'être au fond un pays parmi d'autres qui apprend, parle, écrit en français. Le français s'est au fond émancipé de la France. Il est devenu cette langue monde, cette langue archipel.
Le français émancipé de la France et de la question coloniale, langue monde, langue archipel, autant de promesses émaillées de propositions plus concrètes. Quelles sont-elles? Peut-on s'en satisfaire? C'est notre débat du jour, soyez les bienvenus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Valérie Taillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable adjointe de la division éducation, formation et emploi à l'Agence française de développement. Face à vous, Christophe Chaillot, bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française au sein de l'Institut français. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. D'abord, qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce discours? Il était à la hauteur des enjeux?
Alors, il était ambitieux. Il était particulièrement intéressant pour la variété des leviers sur lesquels il prétend agir. Il était intéressant pour le décentrement par rapport à la France et pour la mise en avant de ce que la francophonie représente en termes de variété et d'élan partagé collectivement par un nombre important de pays. On parle de 4% de la population mondiale, mais on parle de 15% de la richesse mondiale, ce qui veut dire qu'on est dans une communauté de pays qui a un poids considérable. Et puis on parle d'une langue qui effectivement est une langue monde, une langue diverse, parlée sur tous les continents. Et donc ça, voilà, à ce niveau-là, c'était un discours à la hauteur de l'ambition que peut représenter la francophonie.
Christophe Chaillot.
Oui, effectivement, ambitieux, engagé, et qui reprenait bien l'ensemble des problématiques liées à la promotion du français et du plurilinguisme dans le monde d'aujourd'hui. J'insiste d'ailleurs sur ce terme du plurilinguisme qui est revenu à plusieurs reprises dans son discours. Et c'est extrêmement important aujourd'hui, je crois, d'évoquer la promotion du français sous cet angle de la diversité linguistique et de la diversité culturelle.
On va y revenir dans la longueur, ouais, sur ce sujet.
Et donc, il est ambitieux car il répondait, je crois, aux enjeux principaux que sont aujourd'hui les questions de développement durable. Nous aurons évidemment l'occasion d'en parler avec Valérie, mais aussi les questions d'éducation et de formation, d'économie, de médias, de culture. Donc, de ce point de vue-là, il correspondait bien aux enjeux actuels pour une politique linguistique ambitieuse.
Alors, l'un des principaux enjeux, c'était de développer l'apprentissage du français, en particulier chez les jeunes générations, celles qui formeront le gros des fameux 700 millions de futurs locuteurs qu'on nous prédit en 2050. Que pensez-vous sur le plan de cette éducation, de l'apprentissage du français, de ce qui a été annoncé, Valérie Taillot?
Alors, pour nous, du côté de l'Agence française de développement, qui accompagnons les pays francophones dans leur ambition de réussite de l'éducation de leurs enfants, la question de la réussite de la francophonie ne se limite pas à la question purement linguistique. On est vraiment sur un enjeu de réussite éducative. Le français est une colonne vertébrale de la réussite de l'éducation. Et c'est pourquoi il est tout à fait intéressant que les questions a été posée du côté de la formation des enseignants, de la qualité des ressources, du poids des universités dans l'amélioration des systèmes éducatifs, puisque
a balayé l'enseignement là du tout début jusqu'à l'enseignement supérieur. Tout a été évoqué aujourd'hui.
Tout a été évoqué, et donc c'est y compris l'environnement lettré, l'environnement artistique, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est la variété des leviers sur lesquels on prétend agir, au travers de l'éducation bien sûr, de la science, de l'université, des arts, de l'édition. Et c'est ça qui va faire la réussite collective de l'apprentissage du français. Je veux juste rappeler que nous sommes en train de parler d'un, si on pense principalement au continent africain, d'un continent qui en 2015 comptait à peu près 700 millions de jeunes de 0 à 25 ans, et que en 2050 nous parlons d'un continent qui en accueillera près d'1,3 milliard. Donc il y a là des enjeux qui vont au-delà de la question purement linguistique pour être sur celui de la réussite de l'insertion des jeunes.
Christophe Chaillu, il y a eu une déclaration d'amour aux professeurs de français. C'était important.
C'était extrêmement important. Il y a aujourd'hui 900 000 professeurs de français dans le monde et c'est vrai qu'ils se sentent parfois isolés. Et ils ont besoin, je crois, de cette déclaration d'amour. On le ressent souvent. C'est parfois une profession un petit peu dévalorisée, y compris socialement dans certaines régions du monde. Donc là, c'était important de sentir qu'il y a un véritable amour pour ces passeurs, pour ces transmetteurs de savoir.
Au-delà du beau discours, concrètement, qu'est-ce qui a été annoncé qui pourrait donner un peu le sourire aux professeurs de français dans le monde aujourd'hui?
Alors, on parlait avec Valérie à l'instant de l'Afrique. Il a été annoncé une mobilisation de moyens inédits pour l'éducation dans les pays francophones, notamment pour la formation des millions de professeurs qui transmettent le français aux nouvelles générations. Il a également été annoncé la création d'un incubateur pour l'apprentissage des langues qui va réunir des pédagogues, des professeurs, mais des apprenants, mais aussi des start-up, des développeurs afin de développer
Attention,
des nouvelles...
Start-up, c'est un mot anglais.
Aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs, le président lui-même, par rapport aux anglicismes, a une conception, je crois, très ouverte de la francophonie et du plurilinguisme. La langue française s'est toujours construite avec les autres langues, donc il n'y a vraiment pas de concurrence entre les langues, donc pas de problème avec les anglicismes. Donc tout ça pour dire que voilà, il y aura des nouvelles applications qui pourront être créées, une dynamique en termes de modernisation de l'apprentissage du français. C'est extrêmement important pour eux. Et aussi en termes de renforcement de l'environnement culturel francophone, scolaire et universitaire. Des médiathèques numériques, un accompagnement à l'aide du numérique pour avoir un meilleur accès à des contenus francophones.
Justement, la bataille du français se jouera aussi sur Internet, nous a dit Emmanuel Macron. Il n'a pas dit comme ça, mais c'était l'idée. C'est quelque chose que vous partagez, c'est un souci, cet espace numérique de la francophonie, Valérie Théillot.
Si vous permettez, je vais quand même revenir sur la question des enseignants, parce que l'enjeu, c'est pas seulement les enseignants de français. Hein, on parle de presque 7 millions d'enseignants sur le continent, un peu plus de 7 millions d'enseignants sur le continent africain. Ce sont des enseignants, y compris de mathématiques, de sciences, etc. Donc on n'est pas sur un enjeu où la question est purement l'enseignement du français.
On a aussi évoqué le fait de faire des sciences, de faire des mathématiques en français. On peut apprendre d'autres matières dans une langue.
Tout à fait. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qu'on annonce, c'est important parce que c'est un élan, c'est une ambition, c'est une volonté. Ce ne sera pas à la hauteur des enjeux de toute façon, puisque ceux qui peuvent faire les choses au premier chef, ce sont les États. Mmh. Et c'est les États qu'il faut soutenir pour qu'ils réussissent dans leur ambition et dans leur promesse à leur population. Et ça, c'est ce à quoi on s'emploie. Et donc, on peut se féliciter de ce que le président fasse confiance aux actions de l'AFD, par exemple, en appui au système éducatif public, ou à travers l'action avec des partenaires comme l'Agence universitaire de la francophonie sur le programme Apprendre, mais
il y a aussi eu l'annonce de partenariats peut-être privés sur les lycées français. J'ai cru comprendre ça à un moment. C'est important aussi de s'associer au privé pour justement pallier les manques du public que ce soit la France ou d'autres pays.
Oui, enfin, le réseau français, c'est un réseau qui est financé par l'État français et qui est une source de richesse dans la diversité des systèmes éducatifs nationaux. Mais pour répondre, donc, il faut soutenir les États dans leur réussite pour promouvoir une qualité de l'éducation. Et cela passe par une logique qui est forcément partenariale. Il n'y a pas que la France là-dedans, il y a d'autres pays, y compris non francophones, qui contribuent à cela. Et il y a avant tout la responsabilité des États. Sur la question de l'Internet, ce qui va permettre effectivement de porter la réussite de la francophonie, c'est son attractivité. Elle passe en particulier par la présence du français dans l'espace numérique, mais dans les médias, dans le monde de la création. Cette attractivité, c'est cela qu'il faut qu'on retrouve.
Christophe Chaillot.
Oui, pour le numérique, énormément d'enjeux, en particulier dans l'éducation, à la fois dans la formation des enseignants, avec des annonces autour du lancement de CLOM, afin de former les enseignants à enseigner le français, mais aussi les disciplines non linguistiques qui viendront en appui au programme des pays partenaires, et un enjeu autour de la modernisation des techniques d'enseignement et d'accès à des contenus d'expression française venus du monde entier. Un des enjeux, c'est vraiment, on parlait d'évolution, de déplacement de l'épicentre de la francophonie, vous en parliez en préambule. Oui, ça, c'est ressorti du discours du président aujourd'hui, avec cette idée notamment de valoriser, de favoriser la création de contenus d'expression française en ligne.
Alors, avant de continuer, je voudrais qu'on écoute un autre extrait d'Emmanuel Macron et son discours.
Au fond, nous sommes le seul pays de la francophonie qui ne vit qu'en français. Toutes celles et ceux qui parlent en langue française ont une richesse, ils ont plusieurs langues. Il n'y a que les Français qui n'ont que le français. La francophonie doit faire droit aux autres langues. Et notre mission est donc bien celle de continuer à traduire, d'accroître les traductions dans un sens et dans l'autre, d'être ce point de passage qui nous fait dans la francophonie, mais aussi de défendre le Wolof, le Mandingue, le Bassa, le Lingala, le Kikongo, le Swahili, tous les créoles, mauriciens, guadeloupéens, haïtiens, martiniquais, réunionnais, des langues qui, comme le français, rassemblent des millions de locuteurs au-delà des frontières et contribuent à la circulation des savoirs et des cultures. Le français ne peut se développer que dans ce plurilinguisme, que dans ces traductions permanentes.
Christophe Chaillot, vous avez dirigé, je crois, pour l'Institut français, la grande étude sur la promotion de la langue française et du plurilinguisme. Déjà, le fait d'associer les deux, c'est nouveau ?
C'est pas complètement nouveau, mais...
Dans le cadre de la francophonie, je veux dire.
Ça fait plusieurs années, l'OIF le fait notamment à juste titre, qu'on parle de langue française et de diversité linguistique. C'est extrêmement important de s'ancrer dans un cadre plurilingue, multilingue, mais qu'un chef de l'État utilise autant le terme plurilingue, c'est relativement nouveau. Et c'est essentiel, c'est extrêmement important pour l'éducation. Hein, on le sait, les études montrent que effectuer ses premiers apprentissages dans sa langue maternelle sera plus efficace pour passer ensuite dans la langue de scolarisation, que ce soit le français, l'espagnol ou une autre langue. Donc oui, c'est essentiel et oui, c'est nouveau. Et lorsque le président parle des langues nationales et qu'il annonce que les futurs volontaires internationaux allant en Afrique devront parler ces langues, c'est nouveau et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une façon de montrer que toutes les langues doivent être valorisées au même niveau. C'est ce que disent les sociolinguistes depuis longtemps et c'est une nouveauté de le retrouver dans le discours politique aujourd'hui.
Valérie Taillot.
Oui, ça fait presque 10 ans que cette question est montée dans l'agenda. De notre côté, nous soutenons le programme de l'OIF dont a parlé Christophe, le programme Élan sur l'apprentissage des langues nationales et la transition vers le français, donc l'installation du bilinguisme dans les apprentissages scolaires des enfants. Ça fait fondamentalement partie de la question de l'attractivité du français, de trouver sa place dans le concert des langues.
Alors Emmanuel Macron, pardon, vous voulez réagir, allez-y.
Oui. Là où c'est peut-être nouveau, c'est dans les milieux économiques. Il y a quelques années, on disait la langue du business, c'est clairement l'anglais. Aujourd'hui, les dirigeants, les chefs d'entreprise, et on s'en est rendu compte lors de cette consultation en consultant des dirigeants d'entreprise français et du monde entier, la question du plurilinguisme en contexte professionnel est aujourd'hui extrêmement importante. Pour ces entreprises en
termes de... C'est un plurilinguisme qui aille au-delà de la langue natale et
oui,
de l'anglais.
Tout à fait, tout à fait. Et une des mesures concrètes, par exemple, c'est le lancement d'un label multilingue qui permettra de délivrer un label à des entreprises dont une majorité des personnels en contact avec la clientèle parlent la langue du pays, l'anglais, le français et une autre langue. Donc là, il y a une nouveauté par rapport à cet enjeu économique.
Alors Emmanuel Macron a tenté de répondre à ceux qui voient dans la francophonie une forme de néocolonialisme, de mainmise linguistique du français de métropole sur les autres formes du français considérées comme périphériques. Est-ce que c'est un sentiment que vous comprenez? On a beaucoup entendu, même encore récemment. Et est-ce que vous trouvez que le discours d'aujourd'hui apporte des réponses satisfaisantes, Valérie Théillot?
Alors évidemment, on peut le comprendre, hein, il y a une histoire là, derrière. Ensuite, ce qui est important, c'est sans doute cette question de l'émancipation, de la question francophone par rapport à la France. Et ça, c'est une manière d'en parler qui est nouvelle.
Mais en parler à l'Académie française, à Paris, par le président de la République, est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
Oui, mais... ce qui est intéressant, c'est que la France se préoccupe de cet enjeu et le place sur un autre champ du débat. Ensuite, c'est encore une fois une question d'élan collectif qui est proposé par le chef de l'État. Maintenant, il faut être vigilant parce que la question en fait est dans le faire ensuite. Et effectivement, si le faire c'est une offre qui vient de la France uniquement vers les autres, plutôt que dans l'appui à l'ensemble des pays pour agir, là on pourra peut-être reposer la question du néocolonialisme.
Christophe Chaillot, comment mieux associer les représentants de la francophonie dans leur diversité à ces propositions et à faire vivre la francophonie?
Alors, ils l'ont été lors de la consultation. Ils ont d'ailleurs été extrêmement actifs hein, sur le site internet Mon idée pour le français. Nous avons reçu plus de 5000 idées. Donc, vraiment des citoyens du monde entier qui ont déposé des idées avec environ 150 000 visites et plus d'1 million de vues sur internet des vidéos de promotion de cette consultation. Donc, il y a eu un intérêt est vraiment international. Et d'ailleurs, si on regarde les pays les plus actifs, c'est d'abord l'Algérie et la Tunisie, puis la France vient en troisième position. Et il y a énormément de pays africains, d'autres pays africains également. Donc, il y a une vraie volonté de tous ces pays. Alors, on est évidemment, les questions linguistiques sont toujours liées à des questions politiques, mais dans ce cas, je crois que il y a une vraie volonté de valoriser le français dans toutes ses expressions. Et lorsqu'on répète que l'épicentre de la francophonie a évolué, a bougé, c'est une réalité. Moi, j'ai exercé dans des pays comme le Sénégal ou le Liban, où il y avait un positionnement tout à fait décomplexé par rapport à ces questions et même plutôt sain par rapport à une histoire dont il faut évidemment avoir conscience, mais qui ne doit pas empêcher d'évoluer, de regarder vers l'avenir. Leïla Slimani en a très bien parlé à plusieurs reprises.
Valérie Théillot, sur cette question.
Oui, on peut peut-être aussi rappeler que les enjeux géopolitiques aujourd'hui font que le lien entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, qui est un lien grandissant, se fait pour l'Afrique subsaharienne francophone autour du français. Donc la question de la francophonie, les pays francophones s'en sont emparés par eux-mêmes, et c'est ça qu'il faut soutenir, puisque c'est ça qui va porter la richesse de ce collectif de pays.
Est-ce qu'ils sont assez soutenus, ces pays francophones, quand même? Là, les annonces d'aujourd'hui étaient quand même... on a eu un discours d'une heure qui était très lyrique, avec des citations qui faisaient plaisir à tout le monde. Il y en a eu pour beaucoup, d'un point de vue géographique. Mais est-ce que, concrètement, il y a eu des choses qui étaient... qui ont de quoi faire sourire, quand même, la francophonie dans sa diversité, Christophe Chaillot?
À un moment, le président a cité Mohamed Mbougar Sarr, un jeune auteur sénégalais qu'il a rencontré récemment et qui lui disait « Moi, j'ai rêvé de devenir auteur en découvrant Balzac lorsque j'étais adolescent. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'en France, il n'y ait pas de jeunes Français qui rêvent de devenir auteur en découvrant Senghor ou d'autres grands auteurs d'Afrique francophone. Donc là, il y a une annonce en tout cas d'un véritable effort pour qu'il y ait encore plus d'auteurs d'expression française du monde entier dans les programmes scolaires et universitaires français. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et ensuite, dans tous les dispositifs numériques qui sont appuyés, dans tous les dispositifs économiques, oui, j'ai trouvé qu'il y avait de nombreux projets de partenariat menés avec les différents États qui sont concrets et intéressants, oui.
Merci beaucoup à tous les deux, Valérie Théillot, Christophe Chaillot, d'avoir été avec nous ce soir. Valérie Théillot, je rappelle que vous êtes responsable adjointe de la division éducation, formation et emploi à l'Agence française de développement. Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française au sein de l'Institut français. Merci également à Florence Ponce, au service documentation de RFI, à la réalisation. Il y avait Nicolas Benita. Merci aussi à lui.